Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.
Le débrief de Radio VFM et Foot Normand, deuxième partie consacrée au Havre Athletic Club. Bienvenue si vous nous rejoignez. Rebonjour à tous si vous étiez avec nous sur la première partie consacrée au Stade Malherbe de Caen. Toujours à mes côtés, mon coéquipier Mathieu Beillot de Foot Normand. Salut Mathieu.
Salut Christophe, salut à tous.
On va parler donc dans cette deuxième partie du Havre. Le Havre qui a ramené le point du nul sur son déplacement à Niort. C'était samedi soir, la 23e journée. Le score 0-0, le Havre 6e avec 35 points à 3 points désormais. Du cinquième, on accueillera notre invité dans un instant. L'actu des Ciels et Marines, c'est dans la deuxième partie du débrief, épisode 15, et ça commence maintenant.
Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.
Dans cette deuxième partie du débrief, on évoque effectivement l'actualité du Havre ce week-end. Le Havre se voyait proposer un choc d'outsider avec un déplacement à Niort. Avant le coup d'envoi, les deux équipes se trouvaient à égalité de points, à la sixième place, à portée de tir du top 5. On précise simplement que les Chamois comptent effectivement un match de retard. Résultat 0-0, donc je vous le disais tout à l'heure, et pourtant les Ciels et Marines n'ont pas forcément livré un mauvais match. Ils ont même touché du bois à la demi-heure de jeu sur une frappe du jeune Mathis Ablin, la jeune recrue, mais comme souvent, eh bien, cette formation havraise n'a pas su trouver l'essentiel, à savoir le chemin des filets adverses. 0-0, donc score final. Notre invité dans cette deuxième partie, c'est Arnaud Boubé, le supporter du Havre, il nous le dira dans un instant. Il est également entraîneur d'Agon-Coutainville en Régional 3. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous.
Bienvenue dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand. Arnaud, je le disais, supporter du Havre Athletic Club, un club que vous connaissez particulièrement bien.
Oui, et depuis longtemps, puisque déjà je suis havrais de naissance et j'ai connu mes premières heures de stade au stade Jules Deschazeaux à l'époque, qui me manque beaucoup d'ailleurs. Et j'ai suivi ce club pendant toute ma jeunesse et j'ai même eu l'occasion d'y travailler dans le registre de la communication pour le suivi de l'équipe professionnelle et des équipes de jeunes. Donc c'est un club que je suis toujours, malgré les années. Je pense que voilà, on est pris à vie pour ce genre de choses-là. Moi, c'est le Havre et voilà. Et je suis toujours ça d'un œil très averti. Ouais.
Et vous allez nous amener votre œil, effectivement, dans cette deuxième partie du débrief. 0-0, donc on le disait en préambule, ce Niort, le Havre Athletic Club et cette stat, Mathieu.
Oui, parce que bon, forcément, le Havre n'a pas marqué ce week-end, mais on va dire que c'est pas leur fort à nos amis havrais, les buts, car ils ont, donc, il y a 23 journées disputées et ils ont inscrit 22 buts, ce qui fait la 13e attaque de Ligue 2. Même le Stade Malherbe fait mieux, Arnaud. C'est moche. Hein.
Il faut bien trouver des registres où Malherbe fait mieux que le Havre cette année.
C'est ça. C'est l'un des rares registres où Malherbe cette saison fait mieux que le Havre. Mais le Havre a d'autres ambitions que le Stade Malherbe à l'instant T. Et on a envie de se poser la question, est-ce qu'on peut prétendre au top 5 avec une attaque aussi peu prolifique? Alors, on précise que l'AC Ajaccio est deuxième et n'a inscrit que 20 buts. Alors, c'est possible. Mais on a l'impression quand même que pour ce hack, il va quand même falloir accélérer au niveau des buts parce que sinon ça va être compliqué. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud?
C'est extrêmement difficile et ça se ressent de match en match et le nombre de matchs où le Havre a marqué plus de deux buts doivent se compter sur les doigts d'une demi-main et mécaniquement c'est ce qui a priori pourra jouer des mauvais tours quand tu pourras faire les comptes. Le plus affolant c'est de se dire que le Havre est toujours en course malgré des statistiques qui sont comme celle-ci, donc ça va peut-être se régler avec l'arrivée du jeune Ablin. Je pense que c'est quand même difficile de lui mettre toute la responsabilité sur les épaules quand on a 18 ans et qu'on vient en prêt comme ça. Donc il faut être patient encore et toujours, et tant qu'on sera dans la course, il y aura toujours matière à espérer, mais c'est vrai que c'est un problème de taille.
En tant que supporter du HAC, on y croit à ce top 5. Christophe le rappelait, hein, aujourd'hui il n'y a que 3 points d'écart avec Auxerre qui est 5e. Auxerre qui ne tourne pas non plus hyper fort en ce moment, c'est 2 points sur 9 sur les 3 derniers matchs avec toutefois un gros calendrier. Est-ce qu'on y croit
Oui, plus que jamais. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'on est dans des situations en championnat de Ligue 2 relativement difficiles, et que cette année d'être au-delà de la mi-saison encore à 3 points de ces playoffs, ça donne de l'espoir. Maintenant, je pense qu'il faut être lucide aussi, c'est que c'est ce championnat et donc du coup c'est cette première place qui sont extrêmement serrées qui donnent encore de l'espoir au Havre. Et on sait que ça va jouer sur une petite série, je pense, entre mars et avril. L'équipe qui réussira à gagner 3 ou 4 matchs de suite se positionnera, je pense, pour accéder aux playoffs.
Donc l'idée c'est de rester à portée de fusil. on va dire autour des, allez, moins de 2 victoires, on va dire 6 points, moins
ouais,
de 6
ouais,
points.
Ouais, parce que c'est vrai que, je me permets messieurs, on a le sentiment que cette équipe elle est inconstante, on a le sentiment qu'elle a du mal à marquer des buts, mais on a quand même tendance à oublier qu'elle est quand même bien dans la course au play-off.
Ben oui, mais c'est ça qui est hyper paradoxal. Après il y a quand même énormément de points forts dans cette équipe là, je trouve que notamment le voilà l'apport de Paul Le Guen, l'assise défensive qu'il a mise en place et qui permet aussi au Havre d'être parmi les meilleures défenses du championnat, lui donne des résultats, très peu de victoires et des séries en cours qui sont quand même assez inquiétantes, notamment à domicile, que je crois que c'est 4 matchs sans victoire à domicile ou 5 matchs de suite sans victoire à domicile.
Ouais, la dernière elle remonte à loin, elle remonte en 2021,
voilà,
ça c'est sûr.
Là 3 nuls de suite, 4 matchs sans victoire, donc c'est quand même assez étonnant de se dire que avec toutes ces statistiques défavorables, là, se retrouve toujours dans la lutte. Mais ouais. Tant que ce sera le cas, effectivement les supporters espéreront et ça se jouera pas grand chose.
Voilà, donc on précise hein, pour rebondir sur tes propos Arnaud, donc c'est effectivement le Havre, c'est la deuxième meilleure défense de Ligue 2 derrière la Sage Ajaccio, partage des points communs. Et si le Havre en est là, c'est vrai qu'à domicile c'est moyen. Par contre à l'extérieur c'est énorme parce qu'il y a une défaite en championnat à l'extérieur, que c'est l'un des meilleurs parcours. Voilà encore
et des
une
résultats
fois
probants, hein, une victoire à Auxerre, un nul au Paris FC.
Voilà, des très très bons résultats. Voilà, même Niort, on rappelle que Niort, même si c'est pas le nom le plus clinquant de la Ligue 2, c'est à égalité de points, donc on le rappelle encore une fois, avec le Havre, avec un match de moins. Donc faire 0-0 là-bas, en soi, c'est pas un mauvais résultat non plus comptable. Le problème du HAC, c'est qu'il faut derrière, il faut enchaîner au Stade Océane. Et par exemple, il faut enchaîner sur le prochain match à domicile, hein, qui aura lieu dans une semaine, lundi, avec la réception de Bastia. C'est ces matchs-là qui doivent permettre de faire basculer le HAC dans la bonne partie du classement.
Ouais, la différence aussi dans l'approche des matchs, et pour en avoir vu quelques-uns aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, c'est que le Havre est une équipe joueuse et on a régulièrement des adversaires regroupés qui viennent à Océane et trouver des décalages, réussir avec nos difficultés offensives à trouver des solutions pour marquer. Sont difficiles. Par contre, à l'extérieur, c'est peut-être des adversaires qui sont plus dans le profil qui peuvent plaire au Havre, puisque ça se découvre un petit peu plus et le Havre a la possibilité de mettre son jeu en place avec un peu plus d'espace. Donc, je pense que c'est aussi ça qui met en lumière la grosse différence de résultats à domicile et à l'extérieur.
On parlait un petit peu justement du profil de cette équipe havraise. Donc, du coup, on a l'impression qu'il manque un peu de qualité devant en fait pour basculer. Est-ce que tu partages ce point de vue malgré, bon voilà, on rappelle, hein, bon, il y a Jamal Tiaré qui est blessé depuis la mi-octobre. Paul Le Guen a annoncé que possiblement il reviendrait pour le prochain match. Il y a Papi Nouba qui l'a fait un peu à l'envers au Havre en partant disputer la CAN sans prévenir qu'il avait des origines mauritaniennes, lui le natif du Sénégal. Ils ont recruté le petit Abline, on reviendra sur le cas Boutaïb un petit peu plus tard. Après vous avez Alioui, vous avez Cornet, vous avez Bonnet, vous avez Fontaine, mais on a l'impression quand même que ça manque de ce joueur, voire de ces deux joueurs qui font basculer un petit peu les rencontres.
Oui, complètement. Alors que pourtant, sur les recrues récentes, et je pense à Alioui et à Cornet, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des relativement bonnes surprises, parce que c'est quand même des joueurs qui marquent quelques buts. Sur le peu que l'on marque, Cornet et Alioui sont bien placés. Boutaïb, avant de partir, avait réussi aussi à trouver un peu plus régulièrement le chemin des filets. Donc, il manque de la qualité, c'est évident. Et on voit que très régulièrement, les équipes qui montent ou qui se positionnent pour monter sont portées par un buteur et par un joueur qui est capable de marquer 15-20 buts dans une saison. Depuis Kadewere au Havre, c'est vrai que si notre meilleur buteur arrive à 5 ou 6 buts à la fin de l'année, c'est voilà. Et je pense que ça explique aussi en partie les difficultés. C'est que c'est un effectif qui est restreint en nombre, c'est un effectif qui est globalement de qualité, qui est relativement jeune aussi dans la globalité. Mais il manque peut-être ces deux joueurs. Je pense à des clubs comme Auxerre qui peuvent jouer avec Autré. Voilà, c'est ces joueurs-là qui peuvent, je pense, sur des matchs importants, faire des différences et permettre de prendre les points qui vont compter.
On va prendre un petit peu de hauteur, Arnaud, et analyser peut-être de manière un petit peu plus générale le fonctionnement du Havre aujourd'hui, de la hauteur et du recul aussi, parce qu'évidemment, ce club, vous le suivez depuis plusieurs années maintenant. C'est quoi votre regard général sur le Havre Athletic Club depuis notamment la prise de fonction de Vincent Volpé? On rappelle qu'il a succédé à Jean-Pierre Louvel en 2015. Cela va bientôt faire 7 ans qu'il est aux commandes du club Ciel et Marine. On rappelle qu'à sa prise de fonction, il avait fixé quand même quelques objectifs. La remontée du club en Ligue 1, le stabiliser dans l'élite du football français, développer la section féminine, ce qu'il a à ce niveau-là plutôt bien réussi. D'une manière générale, c'est quoi votre regard là-dessus?
Mais c'est que c'est une présidence qui est vraiment dans la continuité de celle déjà de Jean-Pierre Louvel. C'est que c'est un club qui est sain et que c'est un club qui vit pas au-dessus de ses moyens. Donc ça, c'est temps qui court. Je pense que c'est bien de le souligner et de s'en satisfaire, même s'il y a de la frustration et les supporters havrais me contrediront pas. C'est que c'est quand même relativement morose depuis 10 ans, sportivement parlant. Il y a quand même peu d'envolées et de réels espoirs. Par contre, la chose sur laquelle on peut vraiment se satisfaire, c'est que c'est un club qui est sain financièrement, c'est un club qui est formateur et qui se donne les moyens de faire jouer ses jeunes en équipe première d'année en année, avec des déceptions sur des fins de contrat et des joueurs qui vont partir vers d'autres horizons, parce que c'est la logique du foot actuel. Mais les difficultés sportives doivent pas non plus nous rendre totalement aveugles sur ce côté sain, sur ce côté structuré, sur ce côté ambitieux sur le fond, mais peut-être pas sur la forme, par de l'investissement et par un recrutement. Et on l'a vu encore sur ce mercato hivernal particulièrement frileux, à l'image des clubs de Ligue 2, qui traduit une difficulté économique du moment que tout le monde connaît, que tout le monde comprend. Mais on sait que le Havre, même si dans une ou dans deux saisons on n'est toujours pas en Ligue 1, c'est pas un club qui sera en difficulté financièrement, parce que c'est fait intelligemment. Alors on sait très bien aussi qu'une montée en Ligue 1 permettrait, moi personnellement en tant que supporter, j'ai la conviction de me dire que ce club-là, que cette équipe-là pourrait mieux réussir en Ligue 1 qu'en Ligue 2, puisque nos jeunes prometteurs, et on en a d'année en année, qui finissent par partir libres ou pour des indemnités faibles, puisqu'il reste un an de contrat ou des choses comme ça, c'est des joueurs qu'on pourrait installer, qu'on pourrait prolonger, qu'on pourrait faire briller. Si jamais on doit les conserver, ce sera pour le bien de l'équipe. Si jamais on doit les revendre, ce sera pour le bien des finances. Mais c'est comme ça aussi qu'un club se construit en Ligue 1. Il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui qui le prouvent. Donc il reste un palier à franchir. On voit que les équipes de jeunes tournent toujours très bien. On voit que la N3 est en relative difficulté, l'équipe réserve est en relative difficulté en National 3, mais est infiniment jeune, avec un entraîneur, Michael Lebaïf, que j'ai connu il y a 10 ans, qui était avec U17, donc il y a une vraie continuité dans la formation havraise et dans les équipes globales, avec la section féminine qui a connu la D1 et qui tourne aussi correctement. Donc je pense qu'à l'échelle du club, il n'y a pas de quoi être alarmiste. C'est vrai que les attentes des supporters, mécaniquement, c'est l'équipe Fagnon, et ça viendra. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre 10 ans de plus ? L'avenir nous le dira.
Parce que la dernière expérience en Ligue 1, c'est 2008-2009, de mémoire.
Peut-être même un an avant, je crois.
Mais ça n'a duré qu'une saison. Oui. Ça avait fait malheureusement un aller-retour avec une saison assez compliquée et une 20e place. Oui, de manière générale, les supporters, je pense qu'ils préfèrent avoir un club bien géré comme celui du HAC, qui ne fait peut-être effectivement pas trop d'éclat, que d'avoir une gestion à la Nancy, de faire partie d'un conglomérat de clubs où on ne sait plus si les joueurs ils jouent pour Nancy, pour Austin ou pour truc bidule chouette, et qu'au final vous vous retrouvez 20e. Alors ça manque un petit peu de folie. Bon, ça ressemble un peu aussi au personnage qui incarne le club, hein, Paul De Guen, hein, qui est, je pense, un excellent entraîneur et qui l'a démontré tout au long de son parcours, et qui fait aussi, hein, avec les moyens économiques qui sont à sa disposition. Ça manque un petit peu de cette folie-là, mais c'est vrai que c'est sérieux, ça n'empêche pas d'être sixième cette année, avec de très nombreux jeunes et de très bons jeunes, de se faire prêter aussi des bons jeunes, hein, le petit Abline, on est le dernier exemple, mais avant il y avait eu
Bourra qui est excellent,
le petit Tierno Baldé aussi du PSG, hein, qui jouait avec les 19 ou la réserve de Paris, qui est aussi très très bon. Donc est-ce que ça va suffire pour accrocher ce top 5? Le top 5 qui au demeurant ne donne droit à pas grand chose, hormis le fait de faire 2, 3 ou 4 matchs supplémentaires
et de jouer un barrage à l'extérieur à Ajaccio dans des conditions précaires.
Et de se faire éclater par le 18e de Ligue 1 qui se reposait pendant que vous trimiez, mais ça validerait une forme d'ambition malgré tout.
Oui. Tu parlais de sagesse, voilà, Paul Le Guen l'incarne parfaitement par sa qualité de formateur et son vécu. Le président aussi, chef d'entreprise, connaît la logique économique d'une structure finalement qui se rapproche essentiellement d'une entreprise. Donc il y a de la lucidité et de la pertinence dans ce qu'ils font, de la cohérence. Après, effectivement, en tant que supporter, on a beau échanger, discuter, il y a de la lassitude par rapport à ça, parce que ça manque un petit peu, tu le disais, de folie. Le recrutement est bon, mais il manque peut-être un joueur où on peut se dire, ah, voilà, c'est lui qui va nous faire franchir un palier.
Ouais, parce que dans le foot, à la différence peut-être du fonctionnement d'une entreprise, gestion en bon père de famille et comme on le disait tout à l'heure, sagesse ne vont pas forcément de pair avec folie. Hein, les deux ne vont pas forcément ensemble. Et pourtant, de la folie, il en faut aussi un petit peu dans le foot pour amener cette passion. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, Arnaud, quand on est supporter, ça reste froid aujourd'hui au Stade Océane. Il y a un stade magnifique, des conditions de travail fabuleuses, hein, pour les journalistes que nous sommes. Mais il n'empêche qu'on attend que ça vive autrement. Et c'est l'équilibre en fait qu'il faut trouver entre la sagesse et quand même un petit peu de folie, parce qu'on a le sentiment qu'il s'est épuisé quand même, il s'est grainé au fil des années ce public du stade Océane. Et aujourd'hui, le sentiment qu'on peut aussi avoir, c'est que pour le faire revenir au stade, il faut qu'il y ait cette montée en Ligue 1, et que c'est peut-être ce petit grain de folie, tout en gardant l'équilibre avec la bonne gestion, qui permettra à ce club de retrouver l'effervescence.
Mais tu parlais de folie, et le stade Océane était la folie du président Nouvel, et il a abouti. Moi, je serais toujours nostalgique des heures à Deschazeaux, parce que c'était un stade qui ressemblait beaucoup plus à l'équipe que l'on a actuellement et que l'on avait déjà à l'époque.
Était un bon vieux stade à l'anglaise.
Mais un bon vieux stade à l'anglaise avec une identité forte. Aujourd'hui, vivant dans la Manche, j'ai pas l'occasion d'aller voir tous les matchs à domicile. J'y suis allé pour Ajaccio et c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir des tribunes aussi parsemées, de voir une ambiance et pour des supporters qui se démènent. Mais c'est vrai que le club de foot du Havre n'arrive plus à générer de l'effervescence dans la ville du Havre. Et ça, c'est un constat qui est fait d'année en année et de plus en plus fort, malheureusement. Une montée en Ligue 1, c'est 4 ou 5 000 spectateurs en moyenne en plus que tu gagneras mécaniquement juste par le niveau, par l'opposition et ça relancera toute cette dynamique là mais c'est vrai que ça commence à être vraiment long et les plus belles heures du stade Océane, ça a été l'inauguration, ça a été ces stades remplis pour recueillir Zinedine Zidane, mais depuis un vrai match du Havre avec 12, 13, 15, 16 000 spectateurs, il n'y en a pas eu tant que ça, et c'est vrai qu'on commence à douter un petit peu de l'intérêt de cet outil là quand on voit la situation actuelle.
Un outil que le club paye tous les mois, tous les ans, il y a une redevance qui est très très élevée, hein. Je crois que moi le président Volpe m'avait confié que si on rapporte ça au nombre de sièges moyens, c'est l'une des plus élevées de France pour un club de Ligue 2, Ligue 1 et Ligue 2 confondus. Donc forcément ça pèse aussi sur les finances, hein. C'est pour ça aussi qu'il y a eu des projets de créer un hôtel, de créer une brasserie, parce qu'il faut essayer de le faire vivre toute l'année et pas seulement deux fois par mois pour les matchs à domicile de l'équipe première, et que c'est compliqué un petit
parce
peu.
Parce qu'il est fait pour la Ligue 1, ouais.
Un stade qui est fait pour la Ligue 1, c'est-à-dire que quand on crée un projet comme celui-là, qui encore une fois est technologiquement fabuleux, en termes d'accessibilité, c'est magnifique, tout a été bien pensé autour, mais il faut une équipe en Ligue 1 pour le faire vivre.
J'ai même envie de dire en Ligue 1, ma petite expérience de la Ligue 1 qui m'a conduit à suivre ce championnat pendant 4 ans, je pense même qu'il est même trop grand paradoxalement pour la Ligue 1 française, hein. Un club de la dimension du HAC comme d'autres, hein, ça tourne entre 10 et 15, hein, de moyenne.
Et il vaut mieux un stade à 15 000 blindé qu'un stade à 25 000.
Voilà, alors après c'est un peu toutes ces villes, tous ces clubs, toutes ces collectivités qui ont construit des stades comme ça. Certains sont pas remis. On a nos exemples, notamment du Mans, qui est le plus flagrant, forcément.
Également. Hein.
Ouais, donc c'est vrai que c'est compliqué, que ça dessert un petit peu l'équipe havraise. Pourquoi pas. Il y a un derby ou une confrontation régionale qui se profile.
Je préfère cet appel-là.
Voilà, une confrontation régionale. J'ai vu le regard noir. J'ai tout de suite vu. Qui se profile contre le Stade Malherbe mi-mars. À l'aller, il y avait eu énormément de monde, énormément d'ambiance des deux côtés.
Oui.
Un super état d'esprit de la part des deux copes.
Une belle partie.
Et un beau match en plus. Les acteurs avaient été au niveau des supporters, ce qui n'est pas toujours le cas. Pourquoi pas revivre ça au Stade Océane mi-mars. Et s'il y a une fin de saison avec des matchs couperets. Il y a des très belles affiches, je crois, en avril et en mai, hein, parce qu'il y a de nouveau les confrontations contre Auxerre, notamment. Il y a peut-être une finale au Stade Océane contre Auxerre. Pourquoi pas, on va pas démesurer, mais dépasser la barre des 10 000. Ça serait déjà beau en Ligue 2, en France, ça serait déjà...
Mais si on est en avril encore en lutte pour le top 5, ce serait déjà une première victoire. Remplir le stade, en sera une deuxième.
Ouais. Tu faisais référence au stade Deschazeaux, hein. Je pense que tous les supporters du HAC qu'on peut interroger vont nous parler du stade Deschazeaux. C'est quoi ton meilleur souvenir de supporter du Havre?
Il y a des montées, forcément, ce match contre Laval. J'ai souvenir d'un match de Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne à l'époque, avec un brouillard à couper au couteau. Il y a des joueurs aussi. Il y a des matchs, forcément, en tant que supporter, mais il y a des joueurs qui m'ont marqué, qu'on a vu se révéler à Deschazeaux. Je pense à Lassana Diarra, qui est d'une gentillesse absolue et qui a connu une carrière riche ensuite. Guillaume Oharo, qui a tout connu, lui, pour le coup, au Havre. Moi, j'ai des souvenirs d'un match de Guillaume Oharo au stade Deschazeaux, à se faire insulter avant de devenir le chouchou du public quelques saisons plus tard après son retour de prêt. Donc c'est plus des petites histoires comme celle-ci qui font que des matchs à Deschazeaux, c'est difficile d'en relever qu'un seul, et des joueurs aussi, mais c'est vrai que c'est toute ma jeunesse, mon adolescence et mes premières années de travail dans des ambiances autres que celles qu'on connaît actuellement.
L'époque Jean-François Domergue, Alain Caviglia, on s'en souvient, qui jouait dans la même équipe que les petits jeunes qui arrivaient. Anthony Le Talec, Florent Sinema Pongol, William Moquet, les jeunes de la Cave Verte.
Voilà, Cyril Guyot, que j'ai aujourd'hui la chance de connaître comme éducateur, qui est devenu un ami, qui a eu la chance de jouer aux côtés d'Alain Caviglia. Voilà, c'était les Sinema Pongol et Le Talec qui se sont révélés également. Il y a beaucoup de noms, ce sera difficile d'en retenir que 5 ou 6, mais c'est vrai que c'est l'histoire du Havre des Chazots.
Eh bien, la suite, elle va s'écrire lundi dans une semaine pour les Ciels et Marines, puisqu'il faudra attendre le lundi soir à 20h45 pour voir le Havre Athletic Club recevoir le Sporting Club de Bastia, match décalé de la 24e journée. Ça marquera d'ailleurs le retour à Océane d'un certain Zachary Boucher, qui évolue désormais à Bastia.
Exactement, ça sera l'occasion de retrouver Zachary, avec qui j'avais aussi beaucoup de bons souvenirs. Voilà, un vrai plaisir.
Et l'avant-match, évidemment, et ça sera à suivre via les réseaux sociaux de Foot Normand. Merci Arnaud d'avoir été l'invité de la deuxième partie. Restez avec nous, évidemment. La troisième partie, elle sera consacrée au foot régional. C'était la deuxième partie du débrief consacrée au Havre Athletic Club.
Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.